Dis le ventre congolais avec un aéron de la présentation.
Bonsoir. Dans un rapport publié hier mardi, l'ONG International Save the Children classe la RDC parmi les pays qui ont enregistré des taux de mortalité infantile en hausse ces 10 dernières années, ceci suite à l'absence d'une politique médicale adéquate en direction des pauvres. Sur quelle base cette ONG dresse-t-elle ce constat et quelle politique pour une meilleure prise en charge infantile en RDC? Trois invités participent à cette émission. Abou Tal, il est directeur régional Save the Children. Monsieur Tal, bonsoir. Abou Tal, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Tal. Docteur Lopedi, secrétaire général à la santé, docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Sondji, ministre honoraire de la santé, docteur Sondji, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons déjà. Michel de Goma au Bas-Congo, dire que le taux de mortalité infantile est élevé en RDC, c'est vrai. Par le fait qu'il n'y a pas de soins primaires et une prise en charge médicale pour les populations pauvres et villageoises en RDC. Paul Lenyema Pariala de Kisangani en province orientale. Certes, le gouvernement est en train de conjuguer des efforts indubitablement louables en matière de redressement du cadre macroéconomique. Cependant, des indicateurs sont au rouge dans certains secteurs, notamment celui de la lutte contre la mortalité infantile. Merci de nous suivre en FM et partout au monde sur notre site radiocopie.net et sur DSTV Channel 167. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue au pro-congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Dans un rapport publié ce mardi, l'ONG International Save the Children classe la RDC parmi les pays qui ont enregistré des taux de mortalité infantile en hausse ces 10 dernières années, ceci suite à l'absence d'une politique médicale adéquate en direction des pauvres. Quelques éléments de ce rapport avec vous, Kevin Côté.
4 millions d'enfants sont morts au cours de la décennie écoulée du fait des gouvernements qui n'ont pas mis en œuvre des politiques médicales adéquates en direction des pauvres. C'est ce qui ressort du rapport publié à New York hier mardi par Save the Children. L'ONG a passé en revue les chiffres des 42 pays du monde où la mortalité est élevée. Selon le rapport, depuis 1990, le taux de la mortalité infantile a chuté de 28%. Un taux encore très inférieur à celui retenu par le programme des objectifs du millénaire pour le développement adopté lors d'un sommet de l'ONU il y a 10 ans, qui est de 2/3 d'ici 2015. Parmi les pays qui ont enregistré des taux de mortalité en hausse pendant la décennie écoulée, le rapport de Save the Children cite le Tchad, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Dans un autre rapport, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, souligne que beaucoup plus doit être fait dans les 5 prochaines années pour satisfaire aux objectifs du millénaire pour le développement en matière de mortalité infantile, estimant que l'effort doit être porté en priorité sur les plus pauvres. La communauté mondiale peut sauver des millions de vies en investissant en priorité en direction des enfants les plus désavantagés, selon l'UNICEF.
Merci, Kelly. Écoutez, Abou Tal, je rappelle que vous êtes le directeur régional de Save the Children. Il y a cet auditeur vital, il y a Kenya, Alfredo, il y a Colosio, Katanga, il dit « La mortalité infantile est calculée en faisant le rapport entre le nombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an sur le nombre total de naissances concernées. Quand est-ce que Save the Children est passé recenser les enfants de moins d'un an et sur base de quels critères a-t-elle calculé le nombre de morts sur les populations de moins d'un an ?» Moi, je doute sincèrement de ces résultats. Alors, sur quelle base avez-vous fait dresser ce constat que vous présentez dans ce rapport, Abou Tal?
Merci bien, merci de m'avoir invité. Le rapport que nous avons sorti hier, que nous avons publié hier, a été élaboré sur la base de données déjà existantes. Il est basé sur les différentes enquêtes de démographie et de santé qui ont été faits dans les différents pays concernés. Nous avons nous sommes partis d'abord de la liste des 68 pays qui sont compilés dans le, ce qu'on appelle le countdown 2015. Les pays où le taux de mortalité est le plus élevé. Parmi ces 68 pays, nous avons cherché à trouver ceux où il existe déjà au moins deux rapports d'enquête démographique et de santé pour pouvoir comparer les progrès qui auront été faits par ces pays entre 2010, où la date la plus proche de publication du premier EDF et la date de publication la plus récente du EDF. Donc, pour répondre à votre question, monsieur, nous n'avons pas, il ne s'agit pas d'une enquête primaire, il ne s'agit pas d'une enquête faite par Save the Children. Il s'agit de données déjà existantes publiées par les différents pays à travers les enquêtes EDF qui ont été à la base de l'analyse que nous en avons faite.
Alors, à Boutal, on sait qu'ici en RDC, par exemple, hein, le recensement fait défaut, les études ou les enquêtes démographiques, ainsi de suite. Pouvons-nous dire, par exemple, en ce qui concerne la RDC, ces résultats peuvent-ils être minorés?
En fait, je vous dirais une chose. On est parti de 68 pays. Mais là, l'analyse que nous avons publiée, en définitive, ne concerne que 32 pays. Parce que parmi les 68, les données ne sont pas disponibles pour tous les pays. Ou il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir faire des analyses poussées. Et la RDC, entre autres, ne fait pas partie de ces 32 pays. Donc les analyses que nous avons faites, et les pays sur lesquels nous avons pu faire des comparaisons, cette liste de 32 pays n'inclut pas la République démocratique du Congo. Parce qu'essentiellement, peut-être que les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire ces analyses.
Alors, comme cause, hein, vous parlez de l'absence d'une politique médicale adéquate en direction des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Parce que l'analyse que nous avons faite, elle a été la suivante. Parmi ces 32 pays, nous avons, au fil des 10 ans qui se sont écoulés, nous avons comparé les taux de mortalité dans la couche, le cinquième de la population la plus défavorisée, la plus pauvre. Nous avons comparé ces taux de mortalité infantile et infanto-juvénile au 20% au taux de mortalité dans la population, dans la composante la plus favorisée, disons la plus riche, relativement parlant. Et certaines des conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est qu'il y a un nombre de pays qui arrivent à réduire les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile de manière équitable. Cela veut dire que les taux de réduction sont relativement similaires dans les couches pauvres de ce pays comme dans les couches riches de ce pays. Il y a d'autres pays où l'équité n'est pas observée. Il y a certes réduction de mortalité, mais cette réduction est beaucoup plus importante parmi les couches riches de la société, beaucoup plus importante que dans les couches défavorisées, dans les couches vulnérables de la société de ce même pays. Voilà à peu près la démarche qui a été prise, les conclusions qui ont été abordées, et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que dans les pays où on a des progrès sensibles et une équité dans les résultats, dans ces pays, on s'est rendu compte qu'il y a un focus sur les pauvres, hein, que la politique sanitaire est biaisée de manière affirmative vers les couches les moins favorisées. Ce sont dans ces couches-là que nous enregistrons toujours le plus grand taux de mortalité. Ce sont dans ces couches-là que nous avons très souvent le plus grand nombre d'enfants de moins de 5 ans. Merci. Ce sont les résultats de ces couches qui nous permettent de progresser de manière significative vers les OMD, vers
Merci à Boutal, on vous garde tout au long de cette émission. Docteur Lokadi, je rappelle que vous êtes secrétaire général à la santé publique. Comment avez-vous accueilli ce rapport de ces questions?
Merci. Le rapport, d'abord, c'est ministre qui a eu le rapport, il me l'a donné, et il m'a demandé de passer à cette émission. Il y a une chose. Dire que le taux de mortalité est tranquille et élevé en RDC, oui. Mais dire que ce taux est élevé parce qu'il n'y a pas une politique sanitaire qui cible le pauvre, ce n'est pas correct. Vous savez, dans tous les pays qu'on a cités, le Tchad, ce sont les pays qui étaient en conflit ou post-conflit. Vous savez, pendant la période de conflit, les investissements ne vont pas dans les secteurs sociaux. Il y a d'abord les besoins de défense de sécurité. Il suffit de voir l'histoire de ce pays. Quand on regarde de plus près l'histoire du pays, le pays a passé un bon nombre d'années dans la période des crises, des conflits, et cela a été à la base des investissements humanitaires dans le secteur. Or, en matière de mortalité maternelle, bien sûr, on a passé tout le temps dans la période des crises, mais il y a quand même des évolutions, parce que quand on regarde l'enquête mixte réalisée par le ministère du Plan avec l'UNICEF, le taux de mortalité infantile juvénile était à 220 décès pour 1000 naissances vivantes. Et en 2007, avec le EDS, nous sommes arrivés à 148. Donc il y a eu quand même de progrès pendant cette période. Mais il n'y avait pas d'investissement en matière dans les centres de développement. Parce que si on doit agir sur la réduction de la mortalité, d'abord, ce sont les services qu'il faut rendre disponibles à la population. Or, pendant la période qu'on a traversée, on n'a pas pu investir dans les secteurs à cause des conflits que le pays a connus. Et on a eu beaucoup plus d'interventions humanitaires. Et à ce qui concerne la mortalité infantile, on est passé de 120 décès pour 1000 naissances vivantes en 2001 et en 2007 à 92. Et ça montre qu'il y a eu une évolution, bien que la progression est lente. Donc, dire qu'il n'y a pas de politique, ce n'est pas une raison. Parce que, d'abord, la RDC a une politique sanitaire qui est la meilleure d'ailleurs. La plupart des pays dans le monde ont adopté la politique sanitaire de la RDC basée sur les soins de santé primaire.
Alors, docteur Locadi, vous citez parmi les causes de cette mortalité infantile, les conflits, à part les conflits, quels sont les autres facteurs qui entraînent la mortalité infantile?
Oui, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Regardez aujourd'hui. Vous savez que dans les causes de mortalité, il y a la malnutrition. Dans ce pays, le fait qu'on a passé tout le temps dans la période de crise, on n'a pas pu investir dans l'agriculture. On a aujourd'hui des taux de malnutrition plus élevés dans des provinces où on n'avait pas de taux de malnutrition. Les cas, par exemple, de Bandundu, les cas de Kasaï occidental, Kasaï oriental. Donc, la mortalité infantile, il y a des causes structurelles.
Donc, à vous comprendre, vous émettez quelques réserves par rapport à ce rapport.
Oui, mais le rapport, je comprends bien le souci de Save Children, qui est d'ailleurs un partenaire du ministère de la Santé, eu égard à ce fait que la vitesse de réduction n'est pas est lente et le pays sortant de la crise, au niveau du ministère de la Santé, nous avons élaboré un plan national de développement sanitaire de 2011-2015, justement pour lutter contre la mortalité infantile et infanto-juvénile. Et dans ce plan, il y a des axes clairement établis, des investissements qu'il faut faire pour augmenter la couverture des services, améliorer l'accessibilité de la population aux services pour justement réduire la part de la mortalité infantile qui est liée aux services de santé. Je vous ai dit, le problème, par exemple, de malnutrition. les facteurs liés à la nutrition et à l'alimentation sont des facteurs de développement. Il faudrait des investissements dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de la pêche, dans le cadre de l'élevage. Mais en ce qui concerne la santé, pour le moment, nous avons un plan de développement sanitaire qui cible la période 2011-2015, parce que nous savons qu'en 2015, nous allons évaluer l'atteinte des objectifs de développement du millénaire.
Docteur Jean-Baptiste Assongi, vous êtes ministre honoraire de la Santé. Comment vous analysez ce rapport? Vous avez suivi Docteur Lokadi, secrétaire général de la Santé publique, et Aboutal, directeur régional de CFDKL.
Oui, d'abord, je tiens à dire que c'est nous qui avions accordé au CERF de Sylvain de travailler ici quand nous étions ministres, pendant que Lokadi était directeur de la quatrième direction. Donc, c'est pour dire que, d'abord, à notre sens, nous ne devons pas considérer les informations que CERF de Sylvain donne comme une accusation, mais nous devons plutôt les considérer comme une interpellation. C'est-à-dire qu'en tant que agent destiné à améliorer la santé de notre population, lorsque ces chiffres sortent, que ces chiffres ne sont pas bons, nous ne devons pas nous considérer nécessairement comme accusés, mais plutôt nous interpeller et nous dire qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire pour que les choses en soient là et que devons-nous faire pour y arriver la nuit. D'abord, il faut bien dire que le ministère de la Santé, puisque j'ai eu à diriger ce ministère, est un ministère qui dispose véritablement de plans de développement de santé tout à fait pertinents. Mais le ministère souffre de plusieurs facteurs. D'abord, vous savez que le ministère de la Santé ne produit pas de l'argent. Il ne produit pas des ressources. Le ministère de la Santé bénéficie des ressources produites par d'autres activités de la nation. Or, comme le secrétaire général local vient de le dire, il faut bien reconnaître que notre pays aujourd'hui ne produit pas. Il est englué dans des conflits sociopolitiques qui sont tels que il est très difficile, même quand on a une politique de santé tout à fait pertinente, que cette politique puisse être mise en œuvre. Et je pense que ce dont souffre le ministre de la Santé, c'est pas le manque de vision, c'est pas le manque de formulation de politique dans les différents domaines, mais c'est plus dans la mise en œuvre que le ministère souffre, parce que les ressources sont affectées à autre chose. Aujourd'hui, comme il le dit, la malnutrition joue un rôle extrêmement... Vous savez, tous les problèmes de santé dans notre pays, tout ce qui est morbidité, mortalité, c'est lié essentiellement sur des maladies infectieuses, sur lesquelles qui se greffent sur un fond de malnutrition, sinon larvée, mais en tout cas généralisée. Donc, même si vous faites une très bonne politique, avec des ressources aussi modiques, il est très très difficile d'avoir des résultats. Moi, je ne suis pas étonné que les résultats soient pas bons pour notre pays, parce que malgré ce qui existe, malgré les plans qui existent, je ne crois pas que la santé publique soit considérée comme une priorité dans les affectations des ressources dont le peu de ressources dont le pays dispose encore.
Il y a deux auditeurs qui nous ont écrit, Dr Sonji, l'air à Guémanga de Bouy en province orientale, le taux élevé de mortalité infantile n'est-il pas dû à l'insécurité, à l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins du pays, Dr Lokadi l'a dit. Il y a Raymond Kassangala qui est à Kinshasa, notre pays a des sérieux problèmes de santé, si pas de prise en charge des personnes malades, l'inexistence des infrastructures sanitaires adéquates, le niveau de vie de la majorité de la population qui ne permet pas aux parents de supporter les soins de leurs enfants, le coût élevé des soins par manque de subsides étatiques, le refuge dans des églises, chez les tradipraticiens, chez les charlatans, sont là certains facteurs qui élèvent le taux de mortalité infantile en RDC, docteur.
Absolument, absolument. Vous prenez toute la région de l'Est du pays où écument tous les aventuriers qui ne respectent pas la vie. C'est un facteur supplémentaire de l'évasion du taux de mortalité. Et ce qu'ils disent est tout à fait exact. Vous savez, à l'époque coloniale. En 60, ou avant 60 en tout cas, la colonie consacrait 12% de son budget à la santé publique. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la production globale du pays, elle est restée à celle des années 60, pendant que la population a été multipliée par 5. Ceci veut dire que notre pays s'est appauvri 5 fois. Et en plus de ça, si on avait encore maintenu malgré cet appauvrissement un budget de 12%, peut-être qu'on ressentirait un peu moins les effets. Mais ce budget qui était de 12% aujourd'hui, il est insignifiant. Il était avant que nous arrivions au pouvoir, je pense, de l'ordre de 1%. Et puis, on sent une volonté, on essaie de relever 2, 3, 4%. Mais dans un environnement où la production globale est faible, je pense qu'il est très difficile d'avoir une bonne santé dans une population qui s'appauvrit. Et comme je viens de le dire ici, l'essentiel des causes de morbidité et de mortalité sont essentiellement des causes de sous-développement. Aujourd'hui, si vous prenez, moi j'étais chirurgien, j'étais à l'hôpital général, lorsque, maintenant par exemple, la saison de Saint-Julien va se terminer bientôt, quand la saison de pluie va commencer, et bien quelques mois après, on va assister à une recrudescence des péritonites sur perforation iliaque sur fièvre typhoïde, c'est-à-dire des perforations des intestins à cause de la fièvre typhoïde. Or, la fièvre typhoïde, c'est une maladie de naissance. Donc, c'est-à-dire du fait que les égouts sont bouchés, les sanitaires ne fonctionnent pas bien. Donc, le contact entre les bactéries qui provoquent la fièvre typhoïde et les hommes augmente. Donc, en ce moment-là, le problème ne se pose pas en créant. La solution, ce n'est pas en créant des centres médicaux avec des soins intensifs compétents. Non, le problème, en fait, c'est comment améliorer tout ce qui est l'égout, évacuation d'eau usée,
l'assainissement de la ville.
Oui, absolument.
C'est... Voilà. À Boutal, vous avez suivi, Dr Lokadi, du ministère de la Santé, qui émet quelques réserves face à son rapport. Comment vous y réagissez?
D'abord, je voudrais revenir sur un premier point, à savoir que le rapport une chance équitable à la vie, autant que ce soit, ne fait pas de conclusion spécifique par rapport à la République démocratique du Congo. Probablement, comme je l'ai dit avant, par rapport à un manque de données sur la durée, sur les 10 ans qui nous permet de confortablement faire des analyses qui restent conséquentes. La proposition ou ce qui a été dit tout au début, que ceci parle d'une absence de politique sanitaire au Congo, j'ai peur que le rapport ne dise pas cela. Le rapport n'émet pas de conclusion particulière par rapport au Congo. Les 32 pays qui ont été analysés, sur cette liste de 32, vous avez la liste probablement devant vous, la République démocratique du Congo n'y est pas. C'est la mise en point. Cela dit, je crois que le rapport est une interpellation pour une communauté relativement large, des pays africains, des pays d'autres continents également. Dans des situations, et cela se comprend parfaitement, où, en sortie de crise par exemple, il y a un certain nombre de facteurs, Dr Lokadi en a parlé, qui font que les investissements ne sont pas nécessairement au rendez-vous à certaines périodes. Cela dit, moi je trouve qu'il est particulièrement intéressant que même pendant la période dont on parle, de 2001, je crois, à 2005, que la République démocratique du Congo soit passée d'un taux de mortalité de 220 à 165. Moi, je ne peux pas parler de ce qui a été fait de manière pratique pour le Congo pour ce résultat, mais ce résultat, il est globalement très très louable. Si j'en reviens au rapport, la question que je poserai plutôt, c'est est-ce qu'en désagrégeant cette réussite, de ce passage, cette réduction de 220 à 165 par exemple, est-ce qu'en le désagrégeant, on retrouvera une certaine équité dans la réduction? Est-ce que on l'a fait, on a pu le faire à travers toutes les provinces, on a pu le faire à travers toutes les couches de la société congolaise, de manière à ce que la mortalité ne soit pas indûment un fardeau des populations les plus pauvres. C'est la question que je poserai. Mais l'agrégat national semble indiquer une réduction assez importante en dépit des circonstances difficiles que le Congo a vécues ces dernières années.
Docteur Lokadi, de votre auditeur, venant à Bilo de Matadioba Congo, je pense que le chef de Selvan a raison de faire ce constat. Comparativement aux pays développés qui prennent en charge le secteur de la santé par des subventions faites au bénéfice de la population, en RDC, personne n'ignore la démission de l'État dans tous ces domaines. Malgré le flux des grands professeurs d'université dans nos institutions, je me demande à quoi pourrait-on s'attendre, sinon à la catastrophe en parlant surtout de ces secteurs si sensibles qu'est la mortalité infantile. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Merci. Non, moi je pense qu'il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Moi je vous ai, le ministre l'a dit. D'abord, le problème de ressources internes sont liées au développement économique du pays. Ce pays a passé plus de 25 ans en situation de crise d'instabilité. Et comment voulez-vous, pendant cette période, pendant qu'on est en train de s'occuper des questions liées à la sécurité, à la défense du pays, l'attention était désorientée. Donc le problème aujourd'hui, c'est comme des financements dans les secteurs. Les financements internes dans les secteurs, étant donné la baisse de la production, le gouvernement n'a pas pu allouer les ressources qu'il fallait allouer. Et quand vous regardez l'histoire du ministère avant 87, on avait un budget important. Nous arrivons à 90, la coopération avec le gouvernement et le budget, l'aide extérieure qui appuyait le budget du gouvernement est allé au niveau des ONG, au niveau de projets. Et cette fragmentation du financement du secteur est à la base du fait qu'on n'a pas pu assurer des services complets, des services capables de répondre aux besoins de santé des populations. Et c'est là que nous sommes en train de, avec l'ensemble des partenaires, on s'est rendu compte que cette fragmentation n'a pas permis au pays de réaliser des résultats importants sur la réduction. Et quand vous lisez très bien le plan de développement sanitaire élaboré et adopté par le gouvernement, par le conseil des ministres le 31 mars, dans ce plan, si vous le suivez bien, il y a un effort d'investissement à ce qui concerne les ressources humaines. Vous savez que le Congo a formé beaucoup de ressources humaines, ceux qui partent à travers le monde. Il y a un effort important à ce qui concerne le rapprochement des différents financements, l'aide extérieure, les recettes, les formations sanitaires et l'argent qui vient du trésor public. Il faut le rapprocher pour orienter le financement vers les services et surtout en milieu rural. Quand vous voyez, il y a même des mesures d'incitation pour pousser les personnels de santé à aller en milieu rural pour la production de services de qualité à la population. Il y a tout un effort par rapport aux approvisionnements en médicaments et en étant spécifiques. Parce que sans médicaments, vous ne serez pas produit le ce qu'il faut pour la population. Donc il y a un effort. Moi je comprends le seul signe qui est ici d'ailleurs. Je suis heureux, moi je considère ça comme une prise de conscience. Et ce que je peux demander à Excel, c'est justement de faire le plaidoyer pour qu'on puisse mobiliser des ressources de manière à appliquer le plan de mise le plan de développement sanitaire qui est disponible aujourd'hui au ministère de la Santé. Et je suis sûr qu'en appliquant ces plans, au rendez-vous de 2015, le Congo sera en mesure
de réaliser les résultats et à pouvoir présenter à la communauté nationale et internationale.
Docteur Sonji Makangi, cet éditeur qui est à Bouya en province orientale, qui dit qu'est-ce que le gouvernement face à cette situation. Aujourd'hui, par exemple, on note une progression inquiétante des enfants qui naissent dans les rues dans les différentes villes du Congo et qui vivent dans des conditions très difficiles.
Écoutez, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement. Hein. Je suis analyste politique, je suis responsable aussi sur le plan politique. Il est un fait que les perturbations dont le pays a été victime pendant de si nombreuses années ne permettent pas d'élaborer une véritable politique. Parce que les enfants de l'U, c'est quoi? C'est le reflet, en fait, ça traduit la dislocation de la cellule familiale. Cette dislocation, elle est liée au fait que les familles n'ont pas de revenus, il n'y a pas de travail, le pays n'avance pas. Et donc c'est ça qui multiplie un peu les enfants. Et ces enfants, effectivement, c'est une bombe à retardement à très long terme. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez aujourd'hui, chaque jour, nous faisons face à des viols massifs dans l'est du pays, qui d'ailleurs, dont certains vont donner naissance à des enfants. Alors, aujourd'hui, dans un pays qui a des ressources très modiques, à quoi, les peu de ressources que nous avons, à quoi devons-nous les affecter? Est-ce qu'aujourd'hui, le viol, par exemple, de toutes ces mamans, tous ces hommes, constitue-t-il une priorité, de manière à ce que toutes les ressources disponibles soient d'abord affectées pour résoudre ce problème, ou devrions-nous les affecter à régler tous les problèmes, toute la problématique de développement pour justement que les enfants de rue diminuent à travers du fait qu'on renforce un peu la cellule familiale. Le problème, je pense que, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une phase où le pays n'est pas en mesure, au stade actuel, de régler tous les problèmes à la fois. À cela, ceci n'est pas une excuse. Ceci n'est pas une excuse au niveau des dirigeants, parce que dans un contexte difficile, que nous vivons aujourd'hui, on aurait dû avoir une gouvernance un peu plus performante, justement, pour essayer d'affecter le peu de ressources disponibles là où cela peut avoir un effet d'entraînement pour réduire la souffrance de notre peuple.
À Boutal, nous abordons la deuxième partie de cette émission sans transition. Que faut-il d'après vous pour améliorer la prise en charge infantile en RDC? Le docteur Lokadi demande par exemple à Save the Children de faire un plaidoyer pour qu'il y ait plus de moyens.
Oui, effectivement, j'ai bien noté l'appel de Dr. Lokadi. À cela, je voudrais tout simplement dire au docteur que Save the Children globalement est sur la brèche en ce qui concerne la survie de l'enfant. En fait, nous avons lancé un programme il y a de cela 6 à 9 mois pour accélérer un peu ou pour accélérer notre soutien à des initiatives dans ce genre, et la République démocratique du Congo est l'un des pays où on espère mettre de l'emphase. Et au moment où je vous parle, il y a toute une réflexion avec nos partenaires, avec le ministère, quant à l'action d'appui que nous pourrions apporter de manière spécifique à la problématique de la survie de l'enfant au Congo. Cela dit, je veux rebondir rapidement sur une autre chose, c'est la question de ressources. Il est vrai que, au vu du rapport, vous verrez qu'il y a un ensemble de pays dont les performances ne sont pas nécessairement toujours à la hauteur des ressources dont dispose le pays. Si vous regardez la liste de 32 pays, vous trouverez par exemple des pays comme le Niger, des pays comme le Ghana, qui semble avoir fait des progrès relativement importants et de manière efficace, qui ont des ressources relativement modiques ou qui sont en train de gérer également des crises d'une ampleur certaine par rapport à leur pays, par rapport au taille de leur économie. Une chose qu'il est possible de faire, et là j'en viens à la question que vous avez posée quant à ce qu'il faut faire, Je crois que le choix au niveau des stratégies sectorielles, le choix au niveau des politiques sectorielles est un élément important. Et là, je crois savoir que la République démocratique du Congo a fait un de ses choix, par exemple, du développement d'un minimum de services de santé. Ceci est une bonne chose. Si on arrive à universaliser l'accès à ce paquet minimum de services, à ce qu'il soit disponible dans toutes les aires de santé, dans toutes les zones de santé, dans tous les dispensaires, en universalisant l'accès, on permet aux familles les plus démunies de pouvoir répondre aux besoins à ces facteurs qui tuent leurs enfants de manière immédiate. Ce sont des choses qu'on peut éviter. Il s'agit de diarrhée, il s'agit de paludisme, il s'agit de rougeole et autres facteurs qui peuvent être gérés à un niveau primaire.
Merci.
Donc, à mon sens, ce sont ces choix politiques. Certains ont sont déjà faits en ce qui me concerne par le Congo. L'étape suivante, c'est peut-être de l'universaliser et de réduire les frais d'accès qui sortent de la poche de la famille, qui réduisent par conséquent l'utilisation que les familles démunies ont des services de santé.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Sève, de Sèvres, Dr Lokadi, vous êtes secrétaire général à la santé publique. Aboutal dit qu'il y a des pays moins nantis que la RDC sur le plan des ressources, mais qui font face de façon plus efficace à ce problème de mortalité infantile. Sommes-nous pas en train de revenir à la gouvernance performante dont a parlé le docteur Sangui?
Merci. Je crois qu'il a parlé de quelque chose d'essentiel. Le problème fondamental, évidemment, la gouvernance, je vais y revenir. Il y a d'abord le financement de l'offre de services. Il a parlé de paquet minimum. Là. Il faut le financer. Il y a le financement de l'offre de services. Il y a aussi le financement de la demande. Le financement de la demande, c'est-à-dire comment faire pour faciliter l'accès de la population aux services. Et là, il y a soit vous subventionnez, ou soit vous mettez une mutuelle pour partager les risques au niveau communautaire, au niveau de famille. Et c'est cela que nous sommes en train de travailler. Il faut voir le poids démographique du Niger à combien d'habitants. Et par rapport au poids de... Vous savez qu'aujourd'hui, le Nigeria, l'Éthiopie, la RDC, les trois pays, si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'investissement substantiel dans les trois pays, l'atteinte d'objectifs de développement du millénaire pour l'Afrique, ce sera un problème.
Alors, revenons à la gouvernance, parce qu'on a plus.
Alors, en ce qui concerne la gouvernance, bien sûr, la gouvernance, nous sommes en train de travailler. Nous venons de doter le secteur d'une loi cadre, en plus de la stratégie sectorielle, ce qu'il a fait allusion, et une loi cadre. Nous sommes en train de travailler sur du camp de loi spécifique, la loi hospitalière, la loi sur le secteur pharmaceutique, de façon à garantir les textes, parce que la gouvernance, d'abord, ce sont les textes qu'il faut rendre disponibles, et il faut les appliquer.
Docteur Fongi, il y a votre collègue médecin, un collègue médecin qui écrit, c'est Dr John Asenga de clinique universitaire de Kinshasa qui dit, si dans notre pays il n'y a aucune politique comment réduire cette mortalité, si les ONG, ASBL, organismes des Nations Unies, les sociétés savantes s'occupant des enfants, de même que les pédiatres et le gouvernement, ne se retrouvent pas ensemble pour concevoir cette politique, je pense que nous risquons d'aller de mal en pis, les uns excluent les autres dans les actions à mener. Tout le monde travaille en vase clos, il faut une ouverture pour pouvoir espérer changer la tendance.
Oui, ce qu'il dit là est partiellement vrai, mais le problème, à mon avis, le plus important, c'est d'abord, notre pays ne doit pas laisser la santé de ses enfants aux ONG ou à la communauté internationale, c'est l'État congolais en lui-même qui doit absolument prendre la... Vous prenez le problème de vaccination. Vous savez que la plupart des vaccinations de routine, quand nous avons été parmi les premiers à avoir inauguré les vaccinations contre la polio. Mais vous savez que pour les 90% de tout ce qui est vaccination, ça venait de l'extérieur. Mais nous devons nous poser des questions. Est-il normal que la vaccination des enfants congolais soit prise en charge par les étrangers? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de prendre la vaccination de nos enfants. Donc, tout en étant d'accord avec mon confrère des cliniques universitaires qu'il ne faut pas travailler en vase clos pour faire le travail ensemble, mais moi, personnellement, je pense que la charge de la santé du Congolais doit revenir d'abord au Congolais. Bon, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire appel pendant un certain temps à des apports extérieurs. Mais on doit planifier. On doit dire qu'aujourd'hui, nous faisons appel, peut-être pour, je ne sais pas moi, 50% ou pour 20%, 100% aux étrangers. Mais nous devons avoir une planification que dans 10 ans, eh bien, nous-mêmes, les Congolais, nous devons être capables de prendre la santé de nos enfants, de nos populations, nous-mêmes, sans assistance extérieure.
Docteur, on sait que d'ici là, ce sont les élections, il y a beaucoup d'autres priorités. Pouvons-nous finalement espérer que la part de la santé soit améliorée au budget
Non, donc je dis tout très fort, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation nationale. Et là, nous revenons à la problématique fondamentale qui est les perturbations politiques. Vous savez, dans les pays, un pays comme la Belgique, aujourd'hui, qui n'a pas de gouvernement depuis de nombreuses années, bah, écoutez, cela n'a pas de répercussions ni sur la santé, ni sur l'éducation, ni sur tout le reste. Mais les pays comme les nôtres, qui en fait, passent d'un état colonial à un état futur qui se recèle, ces problèmes sont trop liés à la stabilité politique. Du fait, justement, nous n'avons pas une administration qui a une longue tradition de fonctionner et que donc, je crois fort qu'aujourd'hui, l'esprit des politiques n'est pas du tout à l'amélioration des santé de la population, mais c'est plutôt aux élections.
À bout de le directeur régional de Save the Children, je vais vous demander de conclure parce que l'émission va se toucher à sa fin.
Merci de nous avoir invités à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages et merci au docteur Chambi et Lokadi. Notre sentiment est que, tout simplement, il est possible d'avancer beaucoup plus rapidement vers les EMD, en particulier l'EMD4, la réduction de la mortalité infantile. On peut avancer de manière beaucoup plus dramatique si, dans chacun de nos pays, nous commençons à allier aux actions qui ont été déjà faites, à allier un focus beaucoup plus maintenu, beaucoup plus délibéré sur les couches les plus défavorisées.
Merci.
Merci,
docteur Lokadi. Docteur Sondi dit que les priorités sont ailleurs. Mais pouvons-nous pas craindre que cette situation ne puisse s'en en RDC?
Non, on ne peut pas dire que les priorités sont ailleurs. J'ai bien dit, l'effet contre le secteur dispose d'une politique claire, d'une stratégie sectorielle, d'un plan de développement sectoriel. L'effort que nous devons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir. Vous savez, ce pays avec cette sigle-là connue, il faut faire les gens de plan Marshall pour appuyer le gouvernement à relancer les différents secteurs productifs. Ce que je peux peut-être demander à ce sigle, c'est de faire un plaidoyer parce qu'au mois d'octobre, nous aurons la réunion sectorielle pour la mobilisation de ressources pour appliquer le plan de national de développement.
Docteur Sondi, un mot.
Je pense que le docteur Lokadi parle à juste titre en tant que fonctionnaire. Et c'est vrai, les fonctionnaires font leur travail, mais le politique ne suit pas.
Merci, docteur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été très nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Radio Capi. Thank you.